personnes les plus zélées, les plus pragmatiques, sont touchées par les hauts et les bas de la vie. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais direz-vous, qu'arriverait-il si nous jouions mieux notre rôle, si nous menions une bonne vie, hein, si nous obéissions à Dieu? C'est difficile, hein, le « Si nous lui adressions, oh, encore, chaque jour des prières pour lui demander de nous protéger de toutes les souffrances, de toutes les difficultés, hein, qu'arriverait-il? Ben déjà, je vous dirais de le faire, ça ne mangera pas de pain. Peut-être pourriez-vous réellement venir à bout de toutes vos fautes et de tous vos défauts. J'ai bien dit peut-être. Hein. Peut-être pourriez-vous devenir de grands sages et comprendre les façons de faire de Dieu, le cœur de l'homme, les époques, les saisons de nos vies, de manière à toujours prendre les bonnes décisions. Peut-être. Peut-être pourriez-vous avoir foi en Dieu sans jamais douter. Parce qu'il y en a. Hein. Peut-être que votre vie pourrait lui plaire entièrement. Peut-être. Alors oui, certainement, on peut imaginer, dans ce cas-là, Dieu vous protégerait. Votre propre sainteté, votre propre sagesse vous protégerait également. Tout dans votre vie irait toujours bien. Logique, non? Vous êtes d'accord avec ça? Ouf. Bien sûr, c'est faux. Hein. Et pourquoi? On a un exemple, mais incroyable. Une seule personne a réussi à vivre ainsi. Une seule. Dieu le Père a dit que Jésus, son Fils, avait toute son approbation. Toute son approbation. L'Esprit de Dieu est descendu pour le guider. Et voyez ce qui se passe. Il est aimé, confirmé, habilité par Dieu. Et puis, il est envoyé dans le désert et il rencontre son ennemi, le diable. Ce petit mot « puis », je reviens dessus, il est extraordinaire. C'est comme si Matthieu nous disait, écoutez, personne n'est à l'abri des épreuves de la vie. Personne. Hein ? Tout cela confirme en passant, parce que j'aime bien ce livre de la parole de Dieu, que les amis de Job avaient tort. Hein ? Vous vous souvenez de Job ? Job, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à nous ? Il mène une vie exemplaire. Hein ? Hein, par exemple, à un moment donné, il va dire « Si mes yeux ont regardé la jeune fille, qu'on me coule les yeux, enfin je ne sais plus quoi. » Il n'a rien fait, c'est un homme extraordinaire. D'un point de vue, au début du livre de Job, Dieu dit qu'il est juste. C'est quand même assez rare. Donc c'est un homme extraordinaire. Puis, peu à peu, tout ce qu'il avait, ça a mal tourné. Tout a mal tourné dans sa vie. Il a perdu sa famille, sa fortune, apparemment elle était plutôt énorme, sa santé, hein. Vous savez, chaque année qu'on souhaite la bonne année, hein. Bonne année et bonne santé, ce qui est bien hein, en soi, mais bon, des fois ça, bonne santé, bon, je ferme la parenthèse, voilà, donc il a tout perdu, eh bien, on pourrait dire qu'il a été envoyé dans le désert de sa vie, hein. D'accord avec ça, donc, ses amis sont venus le voir. C'était des bons amis, hein. C'était pas des gens... Parce que déjà, souvent, quand on est dans le trou, peu de gens viennent nous voir. Donc c'était quand même des bons amis, c'est quand même à noter. Et quand ils ont vu ce qui se passait, ben, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Si on paraphrase, ils lui ont dit ceci. « Regarde, Job, notre vie est le produit de nos choix. Si tu choisis la droiture, si tu choisis le bien, la tienne sera ainsi. » C'est ce qu'ils lui ont dit, hein. Bon, ils ont mis pas mal de chapitres pour lui dire, mais en gros, c'est ça. Je vous le résume en une phrase. Et ils ont même rajouté, si Dieu t'aimait, il ne te laisserait pas de telles choses t'arriver. Il doit être en colère contre toi et contre les choix que tu as faits. C'est ce qu'ils lui ont dit. Et ben, vous savez quoi? C'est ainsi que pensent bien des gens. Hein. Peut-être tout le monde même. Peut-être que nous aussi, on pourrait s'inclure. Peut-être que des fois, dans nos vies, on peut penser cela. Hein. Vous savez, quand les gens aisés, par exemple, ils regardent les pauvres, qu'est-ce qu'ils présument? Ben, que les pauvres, ils travaillent tout simplement pas aussi dur qu'eux, et c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Et c'est pour ça qu'eux sont aisés. Il y a toujours une part de vrai, mais en même temps, c'est faux. Vous voyez ? Si on ne souffre pas en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on a tendance à en attribuer le mérite, quand même. J'allais dire, c'est humain. C'est pas la chance, c'est pas une grâce. C'est parce qu'on est intelligent et qu'on sait bien vivre. C'est pour ça que tout va bien. Hein ? Pourtant, Jésus-Christ, le seul homme, là on va parler de son côté humain, qui a vraiment toujours eu un bon comportement, qui n'a jamais péché, le seul qui méritait l'amour de Dieu sans réserve, lui, il aurait mérité un sauf-conduit pour échapper à ça, à la souffrance. Et quand on voit la scène de la tentation, c'est que le début, hein, c'est le premier acte, après le rejet, les tentatives de meurtre, la trahison, le deuil, la perte, la torture, puis la mort. C'est pas terrible. Hein ? Cet homme sera jugé, exécuté en toute injustice après son baptême. Tout ira mal pour le Seigneur. Voilà. Bon, ça n'encourage pas ceux qui... Dimanche dernier, j'ai encouragé... Je le réalise, là. Hein, faites-vous baptiser. Non, mais vous verrez, ça risque rien. Des fois, hein, on dit des bêtises. Bon. Qu'est-ce que ça nous apprend, tout ça ? Eh bien, ça nous montre la puissance, la complexité, le caractère insoluble du mal dans le monde. Vous savez, quand on parle des fois des non-croyants, des non-chrétiens, ils considèrent que le monde est composé que de forces matérielles. Hein. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'âme. Hein. Tout a une explication scientifique, naturelle. Et quand ils ne trouvent pas, ben, ils font avec. Alors, selon ce point de vue, on peut régler le problème du mal dans le monde si on instruit les ignorants. On peut modifier les systèmes sociaux, on peut fournir de meilleurs traitements psychologiques, pharmacologiques. Mais ceux qui pensent ça, honnêtement, quand ils regardent aujourd'hui, mais quand ils regardent déjà dans l'histoire, par exemple, cette pensée, elle est beaucoup née au XXe siècle. Bon, ça n'a pas bien marché, le XXe siècle, quand même. Deux guerres mondiales, plus l'extermination, la Shoah, plus. Ça n'a pas bien marché. Hein. Pourtant, on était plus intelligents, on était plus modernes. Ça ne marche pas ensemble. Hein. Parce que la Bible, vous savez, elle dit que le mal, il a plus de facettes, de nuances, de complexité que tout ce qui peut le laisser croire. Hein. Elle soutient la Bible qu'en plus des injustices systémiques, de l'ignorance personnelle, des déséquilibres, il existe dans le monde vraiment des forces du mal, spirituelles. Voilà ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Et on a un verset qui colle parfaitement à cela, et on devrait s'en rappeler tout le temps dans nos vies. Éphésiens 6,12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Voilà, il y a un monde spirituel. Alors, je ne suis pas ni un spécialiste et je ne vais pas vous dire, ben voilà, ça ressemble à ça ou quoi que ce soit. Mais des fois, dans nos vies, chacun, je pense qu'on l'a vécu, il y a comme des ambiances. Hein, il y a des ambiances moins agréables que d'autres. On ne sait pas pourquoi. Vous savez, on a l'habitude de dire, c'est dans l'air. Mais c'est dans l'air. Voilà, c'est ce que dit la parole de Dieu, en tout cas. Hein ? Donc voilà, c'est important d'identifier notre ennemi. Mais notre société, elle a rejeté la dimension du mal, hein, dans la Bible. Comme les amis de Job. Hein ? On sous-estime toujours son pouvoir. Hein ? Quand, ce matin, quelqu'un m'a dit, tu vas prêcher sur quoi ? J'ai dit, je vais prêcher sur notre ennemi. Et deux personnes m'ont répondu, c'est nous, non ? Notre pire ennemi. C'est pas faux. Mais c'est pas que nous, voilà. Donc il y en a un second, c'est Satan et ses démons. Voilà. On n'aime pas trop le dire, hein, comme ça, Satan et ses démons. Mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Hein. Voilà. Et donc nous, on sous-estime son pouvoir dans la vie. Hein. On pose un mauvais diagnostic à son sujet. Par exemple, au plus profond de nous-mêmes, chacun de nous, enfin moi. J'imagine que vous aussi, on s'accroche à une idée simple que faire preuve de bonté nous garantira une belle vie. C'est vrai. Je pense que c'est ce qu'on pense. Mais pourtant, regardez, juste une simple réflexion. Si il y a des forces spirituelles, démoniaques, contre nous, eh bien, il serait normal de penser qu'en réalité, la vraie bonté et la vraie piété devraient les attirer pour nous attaquer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est clair. Si vous êtes meilleur, le diable, il va vouloir vous casser en deux. C'est très clair. Donc, c'est marrant que nous, on pense que faire preuve de bonté, ça garantira une belle vie, alors que si on réfléchissait, c'est quand nous rayonnons que nous devenons un objet d'une attaque. C'est comme ça. Hein ? Voilà. Donc, le mal dans la Bible, on ne peut pas le réduire à des choix humains, à des systèmes sociaux ou à un manque d'éducation. Ça ne marche pas. C'est beaucoup plus complexe. Hein ? On ne peut même pas le situer dans l'ensemble de toutes ces forces réunies pour dire qu'il n'y aurait plus de mal si on réglait ces problèmes. Hein ? Et on ne peut surtout pas adopter, vous savez, une attitude, une démarche consistant à désigner des boucs émissaires. Vous savez, démarche qui a causé tellement de ravages dans l'histoire. Hein ? Et qui revient à affirmer que le mal, c'est principalement causé par ces gens-là. Le « ces gens-là », évidemment, ne veut rien dire. Hein. Voilà. Le « ces gens-là », c'est une race. Le « ces gens-là », c'est une classe sociale. C'est une nation. Hein. C'est une religion. C'est une idéologie politique. On identifie le mal à une classe de personnes. Ce n'est pas biblique. Hein. Je vous le dis, c'est clair. Parce que dans la parole de Dieu, le mal, il est à la fois naturel et il est à la fois surnaturel. Et c'est ces deux dimensions qu'on doit comprendre. Il est à la fois à l'intérieur de nous, il est à la fois à l'extérieur de nous, là aussi. Hein ? Il est individuel, mais il est collectif. En tout cas, dans tous les cas, il est humainement impossible d'y échapper. Eh oui, impossible. Alors, nier l'existence du mal, ça fait partie des choses les pires possibles. Et c'est ce que le diable veut, nier le mal. Hein ? Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi ? Parce que ça plombe un peu. Hein ? Attendez. La bonne nouvelle, et ça, c'est fondamental, c'est que les forces démoniaques ne sont pas les égales de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein ? La bonne nouvelle, c'est que le diable, c'est un ange déchu, il a la tête d'autres anges déchus, hein, parce que souvent, on dit « le diable m'a attaqué », peut-être que c'est un ange. Le diable, il s'est déplacé pour Jésus, peut-être pour nous. Il y a un sergent ou un simple soldat, quoi. Des fois, ça suffit. Hein. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Restons simples, hein. Même là, restons simples. Mais Dieu est infiniment plus puissant. Alors, non seulement c'est certain qu'il va les vaincre, qu'il est plus puissant, il pourra les vaincre, mais c'est sûr qu'il va le faire. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Ça, c'est la promesse de la parole de Dieu. Il faut garder cette promesse. Alors, peut-être parmi vous, là, dans la salle, je ne vous connais pas tous, il y en a certains qui se disent l'existence du diable, c'est un peu primitif, non ? C'est un peu une croyance réservée aux gens simples. Et pourtant, moi, je pense que tenter d'expliquer le monde sans le diable, sans le mal qu'il distille, c'est plutôt un signe de naïveté. Donc, il y a une réalité. Donc, une fois qu'on a identifié l'ennemi, la deuxième question à se poser, c'est d'où vient l'attaque ? Alors, vous avez remarqué, vous le relirez, que le diable répète trois fois « si tu es le fils de Dieu ».« Si tu es le fils de Dieu ». Et ça, c'est son principal point d'attaque. Contre Jésus, mais contre nous aussi. Hein ? Dieu vient d'assurer à Jésus qu'il est son fils bien-aimé et Satan l'attaque directement sur ce point précis. Et c'est là-dessus qu'il vient toujours nous attaquer. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, il demande d'obliger à Dieu de lui prouver qu'il est aimé. Hein ? et donc de lui donner ce dont il a besoin. Ça, ce sera la preuve qu'il est aimé, c'est donner ce qu'il a besoin. Ça ressemble à ce qu'on ressent parfois. Hein. Est-ce que tu m'aimes, Dieu ? Oui, est-ce que tu m'aimes ? Je pense qu'il y a des jours où on se pose vraiment la question. Quoi. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une attaque. Parce qu'on n'a jamais besoin normalement de demander à quelqu'un des démonstrations, des garanties, des preuves d'amour, hein, à moins qu'on ait des doutes. Hein. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? Je t'aime. Oui, mais comment ? Mais pourquoi ? Mais voilà, souvent, si quelqu'un, vous lui dites « je t'aime » et il vous répond « mais pourquoi ?» Bon, c'est difficile de l'expliquer. Je t'aime. Hein. Voilà, il n'y a pas de pourquoi. Il y a le fait que je t'aime. Ben, c'est un peu ça avec Dieu. Hein. Voilà. Et donc, c'est le principal but de la stratégie de Satan. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que Jésus, il veut que nous perdions notre confiance, notre certitude, notre pleine acceptation par Dieu, notre conviction de cela, hein, de cet amour paternel inconditionnel. Alors, il veut faire douter Jésus, mais il veut faire douter chacun de nous, évidemment. C'est toujours le même principe. Hein. Alors, c'est le principal point d'attaque de Satan. Alors, avec nous, ben, comment s'y prend-il ? Alors, le premier truc, il veut nous empêcher de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais c'est clair, net et précis. Et que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Hein ? Je pense que quand on se convertit, c'est ça qu'on accepte. On accepte que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et on accepte qu'il est le Sauveur du monde. Ça, c'est la première étape. Mais souvent, dans nos vies, on va douter de cela. Il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde, il est mort pour nous. Mais parfois, enfin, on se demande, on se dit, mais c'est vrai ? Il veut nous faire douter. Ne cherchez pas autre chose, il voudra toujours nous faire douter de cela. Et en même temps, remarquez les paroles que Dieu déclare du haut du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Ça, ça renvoie au psaume 2, verset 7. Et c'est un chant sur le roi messianique. Hein ? Dieu qui va éradiquer tout le mal dans le monde. C'est ce qui est dit dans ce psaume. Et la suite, qui a toute mon approbation. Là, ça fait allusion, vous savez, au serviteur de l'Éternel, vous savez, dans Ésaïe. Hein ? Un personnage mystérieux, mais un personnage qui va souffrir et mourir pour faire disparaître les désobéissances du peuple. Ésaïe 53. Personne, avant qu'il y ait eu ce baptême, c'est pour ça que je voulais le lier, n'avait rapproché ces deux figures. Hein ? Jésus, le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Jésus n'est pas seulement un homme bon qui nous montre en parole et en acte comment vivre. Ce n'est pas non plus un roi céleste venu pour détruire tout le mal d'un seul coup. Hein ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mal est tellement ancré en nous que si Jésus avait voulu détruire le mal de suite quand il est venu, qu'est-ce qui se serait passé, selon vous ? Ben, on ne serait plus là. Hein ? C'est simple. Hein ? Détruire le mal, il est tellement en nous. Vous savez, c'est comme le bon grain est livré. Il faut attendre que ça grandisse pour pouvoir les séparer sans trop nous abîmer. Donc, son plan n'était pas de nous éliminer, mais de nous sauver. Hein ? Donc, au lieu de cela, ben, c'est un roi qui ne vient pas sur un trône, mais qui vient sur une croix. Hein ? Pourquoi ? Pour qu'on puisse recevoir son amour. C'est un cadeau. Voilà, en fait, c'est ça. C'est un cadeau. Et si on se repose sur ce que Dieu a fait pour nous, sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qu'est-ce qui va se passer ? Nous sommes intégrés dans la famille de Dieu. Hein ? Par adoption, par pure grâce, on est des enfants bien-aimés de Dieu. Par adoption, ça a été rappelé ce matin, par pure grâce. Alors à partir de ce moment-là, quand on reçoit ça dans notre cœur, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, on voudra se détourner du péché parce qu'on sait que ça ne plaît pas à notre Père. Vous voyez ? Mais on ne le fera plus par peur d'être puni, hein, ou de prouver quelque chose. Hein, parce que de telles motivations, vous le savez tous, c'est épuisant. Et puis, vous savez quoi ? Elle débouche toujours sur l'étroitesse d'esprit. Elle débouche toujours sur une attitude suffisante et elle rend nos cœurs durs. Parce que quand on veut faire quelque chose et qu'on obéit à cette chose, ben, forcément, on regarde les autres qui n'y obéissent pas. Voilà. C'est une règle, malheureusement, mais je pense que vous en serez d'accord. Alors que si vous, vous le faites par joie, par reconnaissance, par désir de lui ressembler, ben, vous réformez votre vie. Et elle devient ce qu'on appelle la vie nouvelle, réellement. Elle devient cette vie nouvelle. Les peurs, les anxiétés, les insécurités qui nous hantaient commencent à se dissiper. Et puis pour d'autres, elles se dissipent moins. Alors ben, il faut continuer à prier pour vous. Et puis les succès, les échecs, par exemple dans notre travail, ne vont pas ni nous remplir d'orgueil ou de désespoir. On les prendra comme des cadeaux. Enfin, il vaut mieux le cadeau du succès, hein, évidemment, que l'autre, mais ça en fait partie. On n'est plus découragé par la critique. Parce que l'image qu'on a de soi-même repose sur un amour qu'on ne peut pas perdre. C'est de ça qu'il faut s'en emparer. On ne peut pas le perdre. Et c'est pour ça que c'est le point principal d'attaque de Satan. Il veut empêcher à tout prix les hommes d'avoir ce genre de puissance. Il espère nous maintenir dans l'ignorance du véritable évangile. J'insiste bien, du véritable évangile. Nous empêcher de saisir, de comprendre que nous sommes tous déclarés justes devant Dieu par la foi en Jésus seulement. Pas par nos efforts, même les plus beaux, les plus moraux. À l'inverse, notre ennemi, il veut qu'on ait une image de nous-mêmes fondée sur notre valeur morale, sur notre bonté et sur nos efforts. Hein ? Voilà. Au même titre que dans les, nos relations, ben, c'est sûr que c'est mieux d'avoir de la valeur morale, hein, de la bonté et de faire des efforts pour changer, vous voyez ce que je veux dire. Mais lui, il veut nous faire croire que notre socle, tout repose là-dessus. Et c'est ça qui nous sauvera. Et c'est pernicieux. Hein. Donc maintenant qu'on sait que le diable est là, on sait sa stratégie, son point d'attaque, c'est quoi notre meilleur moyen de défense dans ce combat ? Ben là encore, dans l'évangile, dans ce passage, c'est ce qu'on comprend. Mais le premier truc à remarquer, c'est que Jésus, il ne traite pas avec Satan d'une façon que je dirais superstitieuse, vous savez, ou dans l'incantation. Va t'errer trop, Satanas, Satan, enfin, je ne sais pas quoi. Hein, on n'est pas là-dedans. Hein. C'est pas superstitieux, c'est pas magique, sa manière de faire. Hein. Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise la parole de Dieu, tout simplement. Ça, c'est le message le plus évident de ce passage. À chaque assaut, il répond par la parole de Dieu. Ça doit nous parler. Notre meilleure défense dans notre combat contre l'influence de ces mensonges, c'est pas à réciter des incantations, c'est à nous répéter la vérité. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Si votre esprit accepte l'idée d'un Dieu plein d'amour, mais que Satan amène votre cœur à croire que vous devez faire ceci, cela pour être une personne digne d'amour, ben il a à gagner. Et donc c'est pour ça que tout ce qu'il va dire peut être contrecarré par la parole de Dieu. Et là on a l'exemple, Jésus il cite Deutéronome 8, verset 3, « L'homme ne vit pas de pain seulement ». Ensuite, il va encore citer Deutéronome 6, 16, « Vous ne tenterez pas votre Dieu ». Et puis encore Deutéronome 6, 16, et là Deutéronome 6, 13, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seulement ». Voilà comment on répond à ces attaques. Dans des moments de douleur, d'émotion intense, ce qui nous vient à l'esprit et ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui se trouve au plus profond de nous. Hein ? Dans des situations paniquantes, nos réponses, notre manière de faire, va venir du plus profond de notre être. Maintenant, si Jésus, et je vous pose la question, Fils de Dieu, ne croyait pas pouvoir faire face aux forces du mal sans une connaissance dans son esprit, dans son cœur de la parole de Dieu, comment chacun de nous on peut espérer affronter la vie d'une autre manière ? Alors ça nécessite beaucoup de temps, hein. Même parfois des efforts, prière, lecture quotidienne de sa parole, méditation, mémorisation, vous savez, avoir des versets clés, louange, écoute, enseignement, communion fraternelle, vie d'église, ben, tout cela, c'est indispensable. C'est ça qui va nous faire grandir. C'est ça qui fait que quand on va vivre une situation catastrophique dans notre vie, on va avoir une réponse. On va simplement répondre. Hein. Par exemple, quand, je sais pas, il y a un verset « Celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. » Enfin, dans des situations difficiles, c'est un verset poids lourd, ça. Voilà. Ou « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi quand on doute de soi, qu'on se trouve nul. » Et que vous avez ce verset qui vous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. » En gros, ben, ça sous-entend « Je sais ce que je fais, t'inquiète pas. Si tu es nul, c'est pas grave, c'est moi qui t'ai choisi. » Voilà. C'est, ça fait du bien, non ? Ça fait du bien. On a besoin d'avoir des versets clés. Et on ne les sortira pas d'Internet. Enfin, on peut les trouver sur Internet, c'est pas le problème. Mais on le trouvera dans la parole de Dieu. Les mémoriser, en connaître quelques-uns, je ne vous dis pas de connaître toute la parole de Dieu, mais c'est un outil. C'est un moyen, c'est une bénédiction. C'est une manière de répondre. On n'a pas d'autre moyen, on n'en a pas d'autre. Hein. Jésus, c'est le parfait exemple. Il a répondu par la parole. Quand nous sommes attaqués, répondons par la parole. Ce sera le meilleur système. Hein. Et lorsqu'on sera tenté de pécher, de se décourager, de tout abandonner, hein, ça arrive aussi. Je n'en peux plus, moi. Marcher, j'étais peinard avant. Quand je ne connaissais pas Dieu. Ça vous est jamais arrivé de dire ça ? Il n'y a que moi ? Bon. Je me sens seul, d'un coup. Non, mais c'est vrai, franchement. Hein, de dire, ouh, au moins. Quand je ne savais pas, quand tu ne sais pas quelque chose, c'est peinard. Mais quand tu le sais, quand tu te sens repris dans ton cœur, quand tu... Je ne sais pas. Moi, par exemple, j'ai un défaut, mais je n'en ai pas qu'un, hein, j'en ai des milliers. Mais moi, je m'emporte. Donc, des fois, je vais dire un truc en parlant d'une situation ou quoi que ce soit, et puis d'un coup, j'arrête plus, quoi. Voilà. Mais ça va trop loin. Des fois, et puis après, je suis là. Vraiment, le Seigneur me parle. Il me dit, mais en gros, qu'est-ce qu'il y a encore dit ? Qu'est-ce que tu acceptes d'être ? Ça me travaille. Et Dieu me reprend. Et après, je me retrouve à envoyer des textos. Pardonne-moi. Je ne sais pas exactement ce que je voulais dire. Enfin bon, voilà. C'est humiliant. Hein. C'est humiliant. Moi, je vous le raconte à la rigolade, mais ça fait mal quand même. Si je n'étais pas chrétien, franchement, je m'en fous. Hein. Je ne serais pas touché. Mais Dieu me reprend. C'est ça, la relation vivante avec le Seigneur. C'est hyper concret dans nos vies. C'est hyper concret. Voilà. Voilà. Ces promesses, elles sont faites pour nous sauver. Hein ? Il y a un verset qui dit « Afin que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. » Voilà, c'est de ça qu'on a besoin, cette parole. Hein. Donc, dans notre combat contre les mensonges de Satan, hein, pour terminer, dans notre cœur, et contre ses œuvres dans le monde, on peut s'appuyer sur la parole du Seigneur, on peut s'appuyer sur le Seigneur de la parole, Jésus-Christ. On peut vraiment s'appuyer sur lui. Hein. Alors oui, notre ennemi est fort, pas de problème, il est même très fort, mais n'oubliez jamais que notre ami, notre frère, notre Seigneur l'est bien plus, et cela sans aucune commune mesure. Sans aucune commune mesure. Et ça, c'est fondamental de se le répéter tous les jours. Hein ? Alors, on peut tout surmonter à ses côtés, et ça nécessitera toujours de le chercher. Voilà. Soyez bénis, et on va prier. Seigneur Jésus, merci de... À travers ce message, merci de parler à chacun, de nous faire simplement toucher du doigt que tu es notre Dieu, tu es notre bien-aimé, tu prends soin de nous, tu ne nous demandes rien, tu nous aimes tels que nous sommes. Et c'est cet amour que tu veux faire grandir en nous, cette conviction que tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, ça va nous permettre de marcher en liberté et de ne pas avoir peur d'aucun ennemi. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci.